Luiz.
C'est justement paradoxal pour le coup. Ma pratique se rapproche un peu celle de Carole aussi, parce que je développe des projets qui ont un peu trait à la performance et à l'investissement d'un espace à travers le mouvement et à travers les installations. En tout cas, des protocoles assez minimaux, mais qui prennent l'espace dans son entier dans l'œuvre, dans la pièce. Et justement, finalement, plus on a l'impression qu'on travaille dans des limites qui sont je dirais grandes, en tout cas des installations monumentales, plus finalement on se confronte à la volumétrie des espaces dans lesquels on expose. Je pense que c'était un peu aussi la question de cette expo, c'est que finalement quand on est on est assez facilement confronté au mur et à la simèse, ça veut dire à des questions bêtement d'accrochage et de monstration, et quand on est amené à travailler à quatre sur une exposition qui est beaucoup plus protocolaire et qui est beaucoup plus de l'ordre, voilà, d'un dispositif, en tout cas d'une prise de position intellectuelle par rapport à l'espace, on se confronte à l'espace. Du coup, paradoxalement, on n'est plus dans la limite de la simèse, on est dans la grande limite de l'espace, mais l'espace devient d'un coup tout petit. Et pour nous quatre, on s'est senti, je pense, tout de suite aussi à l'étroit dans cet espace. Et c'est peut-être aussi pourquoi, finalement, l'expo, à la fin, est aussi vide. Pourquoi est-ce qu'on a eu aussi autant de mal à remplir l'espace? On n'a même pas été foutu de classer la photo. La photo, ça a été une espèce de discussion aussi. Où est-ce qu'on positionne une photo dans un espace d'expo quand on est quatre artistes? Comment on l'accroche? Comment on la montre? Comment est-ce qu'on la voit? Comment est-ce qu'on la découvre? Et c'est vraiment pas anodin si la photo est sur un chariot roulant. La photo se balade. On peut tous les quatre potentiellement la déplacer. Elle a été déplacée juste avant, elle n'était pas là au moment du vernissage. Du coup, pour répondre à ta question, Frédéric, je pense que c'est effectivement, à mon avis, une vision romantique, désolé, de croire que quand on crée, ou en tout cas on a une proposition artistique, on est dans on s'abstrait complètement de l'échelle. En tout cas, c'est pas la façon que j'ai moi d'appréhender l'espace d'expo et mon boulot, ouais. Je sais pas.
Je ne sais pas si Frédéric pourrait reformuler sa notion de démesure. Est-ce que c'était une dimension ou il entendait autre chose par démesure?
Après démontage.
Question à Frédéric.
Oui, non, c'est une démesure interne, hein, c'est pas une démesure, c'est quelque chose qui vient s'ouvrir à l'intérieur même de ce qu'on fait. Mais c'est pas forcément quelque chose de gigantesque, hein, c'est pas ça. Hein. Quoique.
Mais il y a de ça aussi, c'est aussi ce qui peut être grisant justement dans ce genre de protocole, c'est-à-dire que les propositions peuvent ne pas s'additionner, exposition collective, donc addition de propositions, mais peuvent se multiplier. Donc il y a une espèce de potentiel, potentialité exponentielle comme ça dans des propositions à plusieurs. On se dit que finalement, plus on est fou, plus on rit, on aurait pu faire une exposition à 46 artistes en même temps, en multipliant nos pratiques et nos dispositions. Et je sais pas, Carole, je vois que tu fais le micro.
Oui, c'était pour le donner à Dominique, mais voilà.
Non, moi, je le donne à Marie-Jeanne.
Et oui, mais moi, j'ai pas suivi du tout.
Juste par rapport à l'idée de démesure, là, je pense que
au premier volet.
Le fait de travailler à quatre limite un peu la... Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai été limitée, mais dans le bon sens du terme, par... Enfin, limitée, voilà, limitée, mais pas dans un sens péjoratif ou frustrant, mais la limite de l'autre, quand on travaille ensemble, justement, elle m'a un petit peu détournée de la démesure, justement. On était plutôt, bizarrement, dans la mesure. Enfin, moi, je sens qu'on est plutôt quand même dans la mesure.
C'est assez paradoxal parce que ce que vous dites, qui est plutôt général pour la maison peintre, cette idée de laboratoire, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un laboratoire et c'est arrivé dans plein de
Carole Douillard et Marie-Jeanne
des centres d'art d'avoir ces les conditions justement de, d'expérimenter des choses, ce qui est toujours très très bien. Et ici, en fait, on avait les conditions, on avait la contrainte justement de, du laboratoire, puisque on ne pouvait pas. On était en terrain inconnu. Donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'on les choses
le étaient déjà
dans un sens déterminé. Non, pas déterminé, mais il y avait déjà un cadre en fait qui nous a contraint aussi sur des choses. Par exemple, le fait de travailler d'abord sur l'espace. Hein. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais est-ce que c'est le tirant hein, c'est peut-être de chacun hein.
Je voulais juste dire par rapport au travail sur l'espace, justement, je pense que c'est là qu'on a tous les quatre, tout de suite, on s'est retrouvés tout de suite sur, ces, sur cette question de l'espace. C'est sans doute le point, un des points communs qu'on aurait tous les quatre, je trouve, hein, ce travail à l'espace, nos relations à l'espace. Marie-Jeanne,
oui. Moi, je vais dire oui, oui. Aïe. Moi, je dois parler des images qui sont affichées dans la seconde partie de l'espace.
Comme elle ferait une formation.
Et je trouvais que Dominique donc, avait extrêmement bien nommé la chose en parlant d'espace en creux. Et effectivement, cette zone, qui est une zone de transition, de passage, elle est aussi la zone où donc, les néons qui sont enlevés chaque jour par la personne de l'accueil, donc le plafond qui est constitué de néons.
Dans le respect de leur place et la respective.
Au nombre, comment dire, au nombre de jours correspondant au, je sais plus parler,
66.
66 néons qui correspondent aux 66 jours d'ouverture de l'exposition. Donc chaque néon prélevé et ensuite déposé dans une boîte qui se trouve ici.
On orchestrait une forme
de déposition. En fait, c'est 66 jours d'exposition, ah, pas les jours au complet.
Ah d'accord, oui, oui. C'est la durée. Effectivement, on a enlevé les dimanches et les jours fériés. Donc, l'idée évidemment étant que l'exposition régresse d'une certaine manière de la lumière à l'obscurité, ou en tout cas change.
Nous
avons une boîte qui s'emplit, elle, de ce côté-ci, et un mur qui s'emplit d'images. Mais les images viennent se coller les unes sur les autres, donc à la fois révéler ce qui s'est produit à une semaine, 10 jours d'intervalle, et s'occultent les unes les autres. En fait, l'exposition est visible en, on va dire, avec une espèce de décalage comme ça. Donc ça constitue à la fois une forme de miroir, mais c'est une sorte de mise en abyme aussi temporelle et de palimpseste. C'est beau. Donc voilà, il y a une espèce de.
Et de mémoire aussi. Comme ça.
Enfin, de quoi?
De mémoire différée.
Ah ben oui, c'est, oui, de temporalité.
Et de ténor
en différé. Et
donc là, l'image qu'on voit, c'est l'image qui date de 2 semaines.
Quelque chose ouais, elle a 2 semaines.
Et c'est vrai que la première image qu'on voyait, qu'on a vue pendant 10 jours ou 15 jours,
c'était l'image du montage de l'exposition, sur laquelle on avait Raphaël sur un escabeau, la tête dans le néon, justement. D'où l'intérêt pour Frédéric aussi de s'y trouver.
Mise en perspective, suscitée dès le départ, c'est celle de pouvoir amender cette exposition à tout moment, c'est-à-dire hors de sa transformation programmée qui consiste à donc retirer les néons, ça c'est programmé dès le départ, que le travail sonore qui est modifié au fur et à mesure, qui viennent témoigner des différents états d'exposition. Et puis ce mur à peindre, qui est peut-être l'endroit où les choses sont le moins programmées, mais en tout cas, il y a une potentialité qui est là, on la connaît dès le départ, on sait qu'il est possible d'intervenir sur ce mur, comme il est possible de ne pas y intervenir. Et en tout cas, là, vous n'avez peut-être pas dépassé cette limite-là, qui est d'intervenir sur l'exposition en ayant défini au préalable les conditions de ces interventions. Et pour moi, c'était aussi, je vous ai dit à quelques reprises, voilà, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que cette exposition, finalement, elle a une forme qui est celle du vernissage, elle a une forme qui va évoluer au fur et à mesure, mais elle peut être aussi amendable. On peut aussi la considérer comme une forme de brouillon. Ça rejoint ce que disait Carole tout à l'heure par rapport à l'idée de ne pas refaire la même chose si vous deviez reproduire l'opération, ou en tout cas être à nouveau invité dans ce même lieu à produire une exposition collective avec cette même proposition. Vous ne referiez pas la même chose. Alors, dans quelle mesure vous pourriez envisager, collectivement ou individuellement, en retravaillant sur cette base du consensus, ou bien en essayant de l'outrepasser, comment vous pourriez envisager de finalement faire quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose d'inattendu. Voilà, transgresser cette exposition programmée.
Très bien, mais ça c'est déjà prévu, mais on va pas le dire. Non, mais enfin, pour moi, c'est pas
de décision collective.
Déjà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est un peu comme ce mur, donc pour le décrire à l'origine, où on avait juste des bandes de scotch qui déterminaient des zones, d'espace à peindre. Hein. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, on est venu, c'est resté pendant très longtemps comme ça, vide en fait, hein, une sorte de zone de réserve picturale. Hein. Et puis à un moment, on l'a fait. Donc là, on était quand même. Justement, c'était un peu tout ce que tu viens de dire. En fait, je pense que c'est contenu dans cette pièce. C'est que, on a fait une sorte d'espace potentiel de peinture. On s'est toujours dit, on a mis la peinture à proximité, on s'est toujours dit qu'on pouvait peindre cet espace. Et pendant très longtemps, il est resté comme ça, vide. Et parce que ça nous suffisait, en fait. Guillaume le dit très bien, lui, pour lui, en fait, le fait d'avoir les pots de peinture et cette zone quadrillée, lui, il voyait déjà la peinture, donc on n'avait pas besoin de la faire. Sauf qu'à un moment, on l'a fait. Donc l'imprévu, il est là. Et c'était, enfin, pour moi, cette pièce-là n'est pas du tout programmée, ni programmable.
Générée.
Et tout à l'heure, on parlait de la possibilité de. On se disait non, mais ça, on va le repeindre en blanc.
Au fur et à mesure qu'on est en interne et externe de l'enfant.
On ne sait même pas ce qu'on va peindre exactement. Quoi. Je pense qu'on est vraiment dans l'imprévu et encore une fois dans le laboratoire. En tout cas pour moi qui fait assez peu de peinture.
Moi je pense que c'est difficile. En fait la question que tu posais, je trouve qu'elle est difficile. Le challenge de l'attentat, quelque chose comme ça. Enfin, moi, j'entends comme ça, en fait, ce dont tu parles. Être attentiste, c'est-à-dire il faudrait qu'il se passe quelque chose qui ne s'est pas encore passé et qui serait de l'ordre de la surprise et du détournement, quelque chose comme ça. Et je trouve ça vachement difficile, en fait, bizarrement. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je trouve que c'est une demande qui, moi, m'apparaît très difficile à mettre en place dans le cadre de l'exposition telle qu'on l'a conçue, en fait. Comme si on était. Moi, je me sens un peu prise, pas au piège, mais un peu. On s'est posé nous-mêmes les contraintes, on les a posées nous-mêmes, parce que tu nous as demandé au départ, il y avait des contraintes, c'est vrai. Une exposition, c'est nous qui avons décidé de la fabriquer, de la faire telle qu'elle est. Et bizarrement, cette question d'être attentiste et de remettre en question maintenant l'espace ou le processus, moi, m'apparaît comme très difficile. Et comme une limite, effectivement, qui est difficile à repousser. En fait, ce qui m'intéresse dans ce questionnement, parce que c'est un questionnement aussi de laboratoire, comment dire,
d'ouvrir
la possibilité dans un processus qui à un moment donné prend forme et consistance dans un signe, on va dire que l'exposition est un signe dans le sens
de donc
un signe exprimé, un signe qui est arrêté à un moment donné, même s'il y a un processus en route. Comment, dans le temps qui se passe une fois que ce signe est exprimé, finalement on continue, nous, personne, artiste, commissaire, etc., a évolué et a changé par rapport à un signe qui a été exprimé à un moment donné. Et c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à partir du moment où on a exprimé quelque chose, on a posé quelque chose, où on l'a exposé, en fait, comment est-ce qu'on peut quand même encore garder la possibilité de... pas de le reliquifier, c'est pas ça, mais en tout cas de le remettre dans un processus, de remettre les cartes en fait, de remettre dans un processus parce que peut-être que depuis l'expression de ce signe, depuis l'exposition, depuis le moment où on a posé ces signes ensemble, ou ce signe, on a réalisé quelque chose, on a une relation à ce signe qui a changé, parce qu'elle change forcément une fois que les choses sont posées, et donc est-ce qu'on peut... à nouveau, là, changer ce signe, quoi. Est-ce qu'on peut réintervenir dessus? Voilà, c'est ça ma question. C'est ça ma préoccupation, une très vieille préoccupation, d'ailleurs.
Je pense qu'on peut revenir au romantisme qu'évoquait Frédéric. C'est une petite pique, Raphaël, mais est-ce que c'est pas aussi une vision un peu romantique du commissaire que de supposer que... quatre artistes donc, qui ne se connaissent pas et qui travaillent ensemble sur une proposition à quatre, qui du coup mettent un moment en parenthèse leurs individualités d'artistes, soient capables dans un deuxième temps d'intervenir en terroriste un peu, pour revenir à ce que disait Carole, et perturber l'expo. Moi j'avoue que c'est vraiment difficile pour moi, j'ai pas de prise. Si je reviens tout seul dans l'espace d'expo, j'ai l'impression d'avoir... un quart de prise sur l'exposition et je me sens un petit peu bloqué. J'aurais vraiment du mal à prendre une décision tout seul, à bouger une chaise, à bouger la photo, à bouger la peinture, alors que je pensais justement au début être vraiment capable de venir foutre en l'air le processus et de venir repeindre ce mur blanc parce que je trouve les couleurs finalement assez moches. Et en fait, je pense que finalement, ça se passe pas exactement comme nous on le pensait, et encore moins comme toi tu le pensais. Est-ce que c'est pas du coup dû à une espèce de romantisme aussi, de la façon dont l'expo aurait pu se passer et dont elle ne se passe pas, qui revient un petit peu à ce que disait Dominique aussi, ce qui m'intéresse moi beaucoup justement dans la potentialité dans le mur à peindre avant qu'il soit peint, et la question de la démesure, c'est au moment où le mur à peindre est... proposé à peindre dans son état initial, on est dans la démesure de proposition. Il y a 150 000 façons d'investir le mur. À partir du moment où on ouvre les pots et on commence à remplir les cases de couleurs, je trouve qu'on est en train de fermer les portes. Et justement, on est en train d'amenuire un petit peu, de réduire le champ des possibles. C'est la fin de ma question.
Je vais juste dire que cette... possible réintervention ou acte, alors terroriste, je ne sais pas, mais n'est pas forcément un acte individuel, ça peut être aussi un acte discuté et commis collectivement. Donc, voilà, c'est pas...
Non, mais c'est pas faux, c'est aussi une possibilité. On pourrait aussi potentiellement décider un moment de réintervenir à quatre. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que, par exemple, alors je pose la question parce que quand je suis arrivé, j'ai découvert le mur peint. Qu'est-ce qui fait que toi, Dom, et toi, Marie-Jeanne, vous avez pris la décision à deux, donc c'est pas la majorité absolue, 2 sur 4, c'est 50%, de dire on ouvre les pots et on peint la semaine dernière, ou il y a 2 semaines.
Je retrouve pour investir collectivement l'espace.
Non, je pense qu'il y avait une espèce de part dans, à la fois d'envie justement de perturber un petit peu les choses instaurées. Et puis de démarrer ce mur, quoi, qui était une sorte de potentiel, et puis de le mettre en œuvre avec une grande conscience que c'était peut-être pas la peine, mais que c'était aussi nécessaire. Je sais pas, une sorte de chose relativement peu clair, mais voilà, un besoin de le faire et de dire
est-ce
bon.
Est-ce que c'était pour faire plaisir à Raphaël, en gros ?
Pas du tout. Non, non, je pense que. Non, non, il y avait une envie de d'abîmer aussi un petit peu. Ouais. Mais, et oui, de mal peindre, de, une envie de crachoter un petit peu sur la chose.
Donc ça reste dans la limite en fait.
Je peux vous dire une chose comme spectateur, comme public. Finalement, ce que vous dites, ça résume un peu la relation humaine.
Bien sûr,
oui. En tout cas,
c'est marrant, on a du mal à transgresser. Moi, je trouve que c'est difficile de transgresser en fait le protocole qu'on a mis du temps finalement à articuler parce qu'on a travaillé pour trouver un équilibre et le remettre en jeu, le transgresser. Moi, je trouve ça difficile, mais c'est une question super intéressante. Mais en fait, moi,
c'est pas l'envie de nous en manquer, hein, parce qu'on a évoqué quand même différentes choses au niveau de cette peinture. Enfin, on n'a pas évoqué énormément de choses, mais on a parlé justement du fait de ne pas être dans les lignes quand même, de scotch. Je ne sais pas si tu te rappelles. Hein. Mais peut-être effectivement.
De l'eau.
En place un protocole. Je pense qu'on peut.
Non, parce que je crois que c'est ça la chose, c'est quand on commence à travailler à plusieurs, on est dans un petit bouquin de respect comme ça.
Que j'ai posé dans un coin parce que ça m'évoquait justement cette peinture. Et donc, partout le monde, c'est une
mauvaise chose. Je ne sais pas.
C'est vidéo. Je pense que la seule qui n'avait aucune limite sur cette exposition, c'est Raphaël hein, qui a proposé quelque chose comme ça. Mais nous, après, on est quand même contraints.
En tout cas, ça me rend question quand ça posait ce plus fondu d'exposition, parce que la première partie de Kaurien s'appelle démontage. On voulait justement insister sur la question du démontage, en fait, le temps même du montage de l'œuvre. C'est bien ce que je constate. Par rapport au romantisme dont je parlais tout à l'heure, je n'ai pas envie de
expliquer
plus bien ce mot pour moi. Il est clair que lorsque la démesure n'est pas placée dans le processus, elle revient sous la forme de l'objet qui devient sacré. C'est-à-dire qu'en fait, on ne touche plus ce qui a été fait. On ne touche plus parce que voilà, ça devient illimité. Ça fait assez facile, mais quand même, je continue quand même là-dessus. Ça devient illimité, ça devient ce qui a été fait. Ça devient pour le coup démesuré, intouchable, sacré.
Par exemple, là-dessus, après, c'est un peu difficile aussi de dire un peu les différentes choses qu'on a évoquées ensemble, les différentes propositions. Mais par exemple, sur l'histoire du démontage, évidemment, le démontage, c'est quelque chose qui nous parle puisqu'on a participé à ce premier volet. Et donc, par exemple, sur cette expo-là, après, le fait de le dire, peut-être que ça va nous empêcher de le faire, mais en même temps,
chacun pourra
négocier
les modalités du dialogue.
Ou acter le fait qu'on allait faire, mais par exemple, on avait évoqué le fait de commencer à démonter l'exposition avant la fin. Donc quelque chose pour le coup qui n'est pas du tout programmé. On en a parlé peut-être, je ne sais pas, moi je me rappelle qu'on en a parlé. Parce que, ouais, c'est sûr. Hein. Et donc, parce que des fois je fais des rêves sur les expos. Et donc on a bien parlé de cette chose-là. Et effectivement, on ne l'a pas acté, donc c'est pas programmé. Mais je vois pas en quoi on ne pourrait pas commencer justement sur cette expo-là, vu qu'on est dans cette idée de laboratoire et qu'on peut se permettre aussi beaucoup de choses. On pourrait très bien la démontrer avant son terme. Et ça ne poserait pas de problème, puisque c'est une exposition aussi en transformation. Donc les transformations, effectivement, ça
sont assez minimes.
Et je pense que quelqu'un, entre une personne qui vient au vernissage et une personne qui vient la même personne qui vient au finissage, va constater effectivement qu'il y a eu peut-être une déperdition, notamment en termes de luminosité, mais peut-être que enfin, il nous reste encore plusieurs semaines à l'exposition, il y a peut-être des choses qui peuvent encore changer, je pense. On n'est pas du tout arrêté là-dessus.
Progressivement ou abruptement.
Voilà, c'est ça, progressivement ou abruptement.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir?
À la faveur d'un processus de décision collective.
J'aimerais bien poser une question à Frédéric, mais c'est vraiment. Tu es d'accord?
Oui, on est d'accord.
Allez.
J'avais donc lu avec attention ton texte. Attends, je reprends les titres parce que. Voilà. Ce qui arrive aux images, au passage des frontières. Et j'ai noté pas mal de choses en le lisant, et puis notamment, il y avait des petites questions comme ça qui surgissaient quand je le lisais par rapport à ta position à toi concernant les images. Et par exemple, alors c'est la question numéro 6. Je la resitue un peu dans le contexte, hein, parce que tu parles à un moment donné des images contemporaines qui souffrent de réminiscences. Et tu dis, le déjà-vu empêche de voir. C'est bien à ce type d'empêchement que notre civilisation nous expose. Donc cette idée de souffrance, de la question des réminiscences des images, c'est même le contexte peut être encore plus... je ne sais pas s'il faut que je resitue un peu plus. Donc on va en rester là, sinon ça va être trop compliqué de reprendre tout le texte. Mais donc les images contemporaines souffrent de réminiscences. Et justement, quand on en a discuté entre nous, par rapport aux images qu'on avait produites ici, parce qu'il s'agit aussi quand même d'images, j'avais envie de te poser la question.
Au fur et à mesure, les mouvements internes et externes de l'ensemble.
À ton avis, de quelle réminiscence souffriraient les images qu'on a produites ici?
Je suis séché, je ne sais pas de quoi dire. Je me souviens d'abord à peine de cette phrase dans ce texte-là.
Sans doute,
ça doit être une espèce de...
C'est une belle... je me permets de te dire, mais je trouve que c'est une belle idée, cette idée des images qui souffrent de réminiscence. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une sorte de subconscient, et d'ailleurs, tu le disais aussi dans le texte avant, que les images ne viennent jamais de rien, et qu'on n'a jamais du vide total, et qu'on est évidemment tous nourris d'images, quoi. Comme artiste encore plus.
Autopoïète,
infusion. Et donc, nous, ici, il y a forcément des images qui souffrent. Enfin, forcément, il y a des réminiscences. Est-ce que tu en vois? Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas?
Non, j'ai pas du tout pensé à regarder les choses comme ça. Alors, donc, cette phrase, tu as bien compris, c'est qu'en plus, c'est une référence à une phrase de Freud sur les hystériques qui sont de réminiscence. Et c'était, en plus, je crois, dans le contexte, une référence à Deleuze et à son livre sur Francis Bacon. Et l'idée étant, si je me souviens bien...
Tu peux te lire la phrase, si tu veux.
C'est-à-dire qu'il faut, finalement, oui, ça part, la création part pas de rien, mais qu'elle s'élabore sur fond de clichés et sur fond d'images toutes faites. Et
le peintre moderne n'est pas devant une surface blanche, dit Deleuze dans son livre consacré à Bacon, mais devant des clichés télévisuels, cinématographiques et psychiques. Et la figure à créer doit s'arracher du figuratif, de la représentation, de la narration.
Dehors, sur une totalité mouvante.
Et ensuite, c'est vrai, tu parlais de l'hystérie des images, et donc tu terminais par cette idée que les images contemporaines souffrent de réminiscence.
Là, le problème, c'est que je suis. Si j'avais réussi à dire une chose maintenant, ça aurait été d'être capable de faire une analyse des images que vous auriez produites. Alors, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que vous installez une forme de bloc d'images mémoire dans l'autre côté que je ne vois pas quand je te parle maintenant, puisque quelqu'un a parlé de palimpseste tout à l'heure, d'accord. Donc vous êtes en train d'installer, vous êtes en train de créer un bloc d'images, et on pourrait imaginer peut-être que, puisque là je fais une fiction à partir de ce que je ne sais pas encore, que la dernière image, celle qui recouvrirait le tout, pourrait, selon des procédures qui m'échappent pour l'instant, souffrir des images qui sont derrière, ou bien s'être créée à partir du frottage ou de la dissimulation de ce qui est derrière elle, mais la question ça serait jusqu'où ce qui est derrière elle trans- rapport dans la dernière image qui sera posée. En tout cas, il faudra voir après comment ce bloc se constitue dans sa matérialité même. Qu'est-ce qui se passe avec la dernière image donnée au regard des gens qui passeront. Je dirais ça comme ça, c'est-à-dire que je ne sais pas. Ce n'est même pas une analyse que je fais là, tu vois, c'est une prospective à la limite. Une prospective pour voir ce qui pourrait arriver à cet endroit précis de ce que vous avez fait. Peut-être que la simèse elle-même renvoie quelque chose de l'ordre de l'espace lui-même et une mémoire inversée d'espace, une malmesure. Je pensais à ça tout à l'heure, je partais de la démesure parce que je m'intéresse à cette idée, donc forcément.
Après démontage.
Comme tout philosophe, j'ai des idées fixes et puis je sais voir comment elles fonctionnent ou pas. Et pour le coup, je me disais que par rapport à ce que vous avez fait, plutôt qu'une démesure, c'est une malmesure, mais pas au sens négatif, c'est-à-dire un espèce de rapport à l'irrationnel. Vous avez mis un irrationnel dans la salle. Et vous avez pour le coup perturbé l'espace
plutôt que
à partir d'une ligne irrationnelle qui vient bouleverser les passages et les regards qu'on peut porter d'un espace vers un autre. Donc ça m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et cette malmesure, pour moi, elle est complètement réalisé ce soir dans l'espace de discussion.
C'est une nouvelle manière d'aborder la propre conduite par les hommes de voir, devenir et d'énergie de venir.
C'est une drôle de manière, de traviole, c'est ce que j'avais écrit sur le tableau, hein, j'avais écrit à regarder de traviole, parce que ça oblige effectivement, on ne peut pas regarder directement les gens à qui on parle ce soir. J'aime bien cette idée qu'il faut se contorsionner pour pouvoir réussir à voir. Il y a une malmesure dans l'espace. Cette malmesure, cette perturbation m'intéresse. Et là, pour moi, il y a une création. Pour moi, ce soir.
Quatre artistes ayant participé au premier volet.
Je n'ai plus la réminiscence de l'image. Je ne sais pas, parce que tu vois, par exemple, l'image, cette grande image-là. Donc, en fait, c'est une reprise hein, d'un fond d'écran.
Vidéo fixe.
Hein, qui est là-bas.
Avec, comme il disait, un extérieur, et puis derrière.
Oui, juste pour en parler.
Oui, on m'ouvre.
Un tout petit peu l'image qui est au fond. C'est pareil, ça fait partie des choses sur lesquelles on était d'accord au début. On était pour. D'élaborer, c'est assez facile à quatre artistes de se dire ok, on fait une installation avec des néons, ok, on fait un wall drawing, ok, on fait une simèse
dessinée,
ok, on fait une image en format sur un mur. Il fallait encore trouver cette image. Et puisque finalement tout est venu de l'espace, c'est en étant dans l'espace, en faisant des réunions dans l'espace, qui est un espace qui n'est en plus pas forcément agréable pour faire des réunions dans la journée, puisqu'il y a beaucoup de lumière dans le jardin.
Carole Douillard et Marie-Jeanne
dans la rue, et l'espace lui-même n'est pas très bien éclairé. On s'est un peu forcé à passer du temps dans l'espace, et en se baladant, on s'est rendu compte qu'il y avait donc, sur la borne d'accueil un téléphone ancienne génération avec des fonds d'écran qui défilent. Donc, c'est des images du désert, enfin, vraiment les fonds d'écran standards qu'on peut connaître avec les ordinateurs. Et dans ces images, il y avait cette.
Se retrouvent pour investir collectivement l'espace.
Un petit peu de brume. Et comme on avait déjà évoqué, notamment avec Dominique, la question d'une installation qui pouvait intégrer une brume, en tout cas une vapeur d'eau dans l'espace d'expo, dans l'idée de brouiller un petit peu la perception de l'expo, cette image nous a apparu comme étant une image qui pouvait s'intégrer du coup à l'exposition. Et du coup, j'ai fait une photographie de l'écran du téléphone. C'est pour ça qu'on. Finalement, dans l'image, il n'y a pas beaucoup de bleu, il y a beaucoup de pixels, cyan, magenta, jaune, noir, qui recomposent à la fin de l'image qui est finalement monochrome, qui est blanche et bleue, qui du coup a embrayé finalement, en tout cas à mon sens, vers le wall drawing et le choix des quatre couleurs. Voilà, c'était juste pour dire que cette image n'est pas venue du tout, elle a l'air d'ouvrir vers un ailleurs, alors qu'en fait elle était déjà contenue dans l'espace. Et juste peut-être Frédéric, je ne sais pas si peut-être que j'ai lu en diagonale et sans forcément comprendre le fond de ce
comme je ferais une formation médicale.
Dans ce texte où tu parles de la brutalité et de la violence, tu parles du coup de la brutalité de l'architecture, que tu opposes du coup à la violence qui serait simplement, qui ferait partie de la condition. Humaine, là où la brutalité serait un acte délibéré.
Dans le respect de leur singularité respective.
Est-ce que pour toi, du coup, cette simèse et le geste qu'on peut imposer d'accès à l'espace peut faire partie de ce vocabulaire, ce corpus de la brutalité que l'autre en tant que texte ?
Non, non, je,
pense pas que. Non, j'ai aucun moment, je sens.
On orchestrait une forme susceptible d'évoluer.
La brutalité, en fait, là, ce dont tu parles, en fait, c'est une. Je reprends les termes de Genet, en fait. Hein, Genet qui opposait la violence brutale, qui vient de la vie elle-même, à la brutalité qu'il accorde à tout ce qui vient réprimer ou empêcher le vivant lui-même, l'expression du vivant, l'expression de la vie.
Ou contraindre.
Là, plutôt ce que je vois, là, c'est. Je pense pas. Je reviens sur l'idée de ma mesure, c'est le premier mot que je prononce qui correspond un tout petit peu à ce que je vois, mais je vois ni. Non, je vois pas de brutalité, c'est certain. Je vois pas de violence, je vois simplement l'inscription dans l'espace de la nécessité de modifier. Trajectoire et mouvement de son corps pour avoir accès à ce qui est visible. Je ne pense pas en termes, tu vois, de brutalité ou de violence. Je ne pense pas que ni l'un ni l'autre dirait, tu vois. J'arrêterai pas à raccrocher ces mots à ce que vous avez fait. Ce n'est pas violence.
Et
c'est
bien
pas violence. J'ai une perturbation. Beaucoup de saines perturbations. Un angle de vue.
Est-ce qu'on arrête là ? Hein ? Vous en pensez ?
Il reste encore un petit peu de blanc et un petit peu de.
Moi, j'ai plus de batterie dans mon téléphone, donc. Oui, après, on peut en chemin faire une petite peinture si vous voulez et puis démonter.
Il est plus sans doute.
On peut commencer le démontage maintenant, Dominique, si tu veux.
Ouais. Je voulais ranger les canapés aussi.
Ça serait pour enfin, ça pourrait bien avoir des retours aussi. Hein.
Oui, à moins que
vous ayez
des choses à.
Je pense que c'est aussi quelque chose qui pose question. Enfin, les retours qu'on a eus, même les retours très positifs que j'ai pu avoir sur l'exposition, ils me paraissent assez étranges. Enfin, parce que
chacun pourra négocier les modalités du dialogue.
Comme on peut en avoir sur les expositions avec les termes. C'est une très belle expo, c'est une expo magnifique, des choses comme ça. Et pour moi, c'est pas ça. Enfin, je trouve que c'est une exposition qui pose beaucoup de questions, qui apporte aussi dans un sens des réponses. Moi, je ne vois pas du tout comme une exposition magnifique. Enfin, je ne pourrais jamais lui donner ces attributs-là.
Même exposition, c'est étrange.
Un jeune dit exposition assez étrange, c'est plus facile.
Non, c'était juste complément.
Non, mais comment ça, exposition, c'est étrange hein.
Ben, le terme exposition, je ne suis même pas sûre qu'il colle réellement.
Bah, c'est une en tout cas, c'est sûr, bon, je pense que c'est toujours le cas, une proposition d'exposition.
Donc, c'est à l'ouverture de l'exposition.
La plupart du temps, mais en tout cas, c'est vraiment acté aussi. Effectivement, comme le disait Frédéric, enfin, l'exposition pourrait être tout autre. Enfin, il y a mille possibilités. Et déjà, l'exposition aurait pu être différente puisque au départ, les quatre artistes qui devaient participer à l'exposition n'étaient pas exactement.
On aura la faculté d'être reloadés partiellement.
Au final, hein, les quatre.
Georges Clounet.
et donc, forcément, ça aurait été les propositions auraient été forcément complètement. Enfin,
totalement.
On n'en sait rien. Enfin, je sais pas, mais je pense que avec une personne différente, ça aurait été complètement autre chose. Hein. Peut-être que sur le coup, on aurait peut-être même pas réussi à s'entendre.
Progressivement ou abruptement.
Enfin, je sais pas. Après, c'est une hypothèse, mais. Et puis sur le fait qu'on a tous participé aussi au premier volet et d'avoir appréhendé
à la faveur d'un processus de décision
l'espace justement vide, hein, entièrement vide. Hein. D'avoir eu l'occasion de faire une expo solo sur une journée, avec ce que ça implique évidemment de ne pas déplacer de nombreuses heures, de ne pas forcément être dans justement des productions un peu gigantesques, etc. Enfin, d'être dans une économie moyenne justement d'une exposition qui dure une journée.
cérébrale, une succession potentielle de formats primordiaux.
On l'a pas écouté, alors peut-être que mieux.
Moi j'étais au
fait. Frédéric, bon Frédéric, il est là, mais il a plus envie. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, s'il vous plaît?
Moi, je pense que les gens n'ont rien compris.
S'il y avait une personne, si le patron n'avait pas été celui-là, il suffisait qu'une personne.
Au fur et à mesure, qu'on est interne et externe de l'enfant.
Oui.
Parle bien dans le micro.
Non, mais parce que c'est quelque chose dont on parle assez rarement, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas des artistes que qui t'a proposé de faire ce volet, c'était pas exactement les mêmes que.
Entre une maman et trois enfants.
Ah oui.
On ne dira pas
qui c'est. On laisse le suspense.
Tout début de son intervention, j'ai dit sur le.
Mais forcément, ça aurait induit autre chose. Hein.
Ouais,
Ah.
Moi, je m'étais
rendu compte
à la notion de liberté, qui est vraiment un élément dans chacun des artistes. Et là, vous avez peut-être été malmené en même temps.
Autopoïde, infini.
Un rapport de production différent, d'élaboration des choses collégiales, et par rapport à cette idée-là de prise de position et de décision collégiale, parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez fait du début à la fin, qui vous a aussi amené à produire les œuvres telles que vous les avez produites, hein, et penser et continuer à faire interagir les unes par rapport aux autres. Comment vous avez géré ce rapport-là?
Et à position
de votre propre création? Je pense que ça a aussi posé des questions en vous sur ces rapports à la liberté qui est le point de départ de l'artiste, quoi, de chacun. Est-ce que ça vous a posé ces questions-là?
Entre parenthèses, regardez.
Il est sur le sac.
Ah oui, il est là. Mais je ne sais pas comment répondre. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée d'être malmené aussi, des propositions, justement, d'exposition ou de projets qui peuvent être un peu atypiques et où il y a des difficultés. Et effectivement, là, ça m'a posé problème, quand même, hein, de travailler de cette façon-là, de ne pas pouvoir, justement, choisir seul à un moment, parce que je savais que c'était comme ça que ça devait être, hein. Et de devoir l'expliciter, en parler, écouter, entendre les arguments des uns et des autres, être d'accord ou ne pas être d'accord, rediscuter, etc., etc. Enfin, le processus est beaucoup plus long. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu tant de temps que ça, quand on dit qu'on n'a pas eu de temps pour l'exposition. Dans le temps imparti qui était de... C'était quoi, 2 ou 3 mois? 3 mois peut-être. 2 mois. C'était vraiment très court, en fait, pour... Et c'est pour ça aussi qu'il y a des choses sur lesquelles on s'était accordé du temps supplémentaire, comme justement cette peinture potentielle, où on s'était dit que pendant l'exposition, on allait continuer à penser justement cette pièce-là. Mais... bon, après, ça s'est pas non plus fait dans la douleur, c'était pas non plus un exercice insurmontable. Mais c'est vrai que la problématique était vraiment intéressante, justement, de mettre de côté aussi sa façon de penser, sa façon de réfléchir à un espace d'exposition, de comment habituellement, que ce soit dans une expo, surtout évidemment dans une expo personnelle, comment on apprend le lieu et comment on va le charger, alors pas forcément en le chargeant physiquement de pièces, hein. Je crois que Guillaume disait tout à l'heure qu'on n'avait pas vraiment occupé tout l'espace, par exemple le sol, on l'avait occupé. Et moi, enfin, j'imagine très bien que dans un espace comme ça, j'aurais très bien pu mettre juste une pièce, parce que immatériel. Hein. Donc c'est
plutôt
pas une question de charger en objet, mais enfin voilà, il y avait, enfin, c'est, Donc c'était en même temps compliqué, en même temps forcément il y avait
et puis une nouvelle manière d'aborder la transformation d'échange comme expression de devenir et d'énergie revenue.
Qui est complètement, en tout cas pour moi, inhabituel. Je n'ai pas cette expérience que peut avoir Guillaume avec justement son équipe d'architectes. Ben pour moi, ça va poser des questions et ça, je serais assez partant pour le refaire, mais pas forcément avec les mêmes artistes. Après, j'aimerais bien retravailler avec eux.
On a dit qu'on était un groupe.
Non, mais on a un groupe pour la vie à la mort.
Quatre artistes ayant participé au premier volet.
Enfin, c'est une expérience qui était en tout cas assez intéressante, même si c'était difficile, forcément. C'était presque plus lourd qu'une exposition, je pense, à gérer.
Ouais. Mais je trouve justement que c'est une bonne question, parce qu'il y a un petit peu, c'est assez binaire,
oui,
c'est assez linéaire. Où on fait des expos collectives, où on fait des expos solo. Pour avoir réactualisé mon CV il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un petit peu de mal à mettre cette expo dans l'une ou l'autre des deux cases. C'est un peu compliqué parce que à la fois je me sens capable de m'approprier complètement le dispositif qu'on a mis en place. Et à la fois j'aurais du mal à mettre ça comme une exposition solo aussi. Du coup, j'aurais presque envie de créer une troisième section dans le CV, l'espèce d'expo, expo à 8 mains ou expo.
Transitionnel.
Carole Douillard et Marie-Jeanne Hoffner.
C'est le moment de chanter une chanson.
Ne donne pas le micro à Raphaël.
Non, mais je voulais juste vous remercier dans ta roleplay, Guillaume Douillard,
Marie-Jeanne Aubry.
Et j'ai oublié qui, et Dominique Hoffner. Voilà. Non, ben, en tout cas, merci d'avoir été patient. D'avoir entendu ce dialogue complètement improvisé pour le coup totalement inattendu donc je ne sais pas si vous allez passer à l'acte maintenant enfin ces artistes en peignant et puis après on peut encore boire un petit verre si vous avez envie
s'il en reste de la peinture du vin.
Merci beaucoup à vous tous, merci Frédéric aussi de pas trop bien,